Anne-Laure Danet, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et responsable du service des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France, et vous nous aidez à comprendre comment les différences indéniables qu'il y a dans les différentes églises chrétiennes peuvent constituent des richesses à partir du moment où les relations, comme vous le disiez précédemment, de confiance, de compassion sont établies, sont respectées. Et manifestement, c'est quand même beaucoup le cas depuis un certain nombre de décennies. Pour vous, la vocation des chrétiens, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça aussi, cette vocation, donc qui veut dire l'appel, on le reçoit, on ne l'invente pas. Et cet appel, c'est d'annoncer l'Évangile à nos contemporains.
Ouais,
à nos contemporains, au monde. Mais annoncer l'Évangile, ce n'est pas à des masses. D'ailleurs, quand Jésus nous parle, il nous parle individuellement. C'est-à-dire, je disais toujours, quand on parle de conversion, c'est qu'on a été saisi par Christ, mais c'est mon histoire personnelle. Et ce n'est pas l'histoire d'une masse entière. C'est chacun qui doit répondre à cet appel. Et voilà pourquoi annoncer l'Évangile, être ses témoins de ce que j'ai reçu de Dieu, c'est ça en fait. Hein. La mission, ce n'est pas autre chose que ça. Mais ça veut dire qu'il faut que j'aille rencontrer les gens, il faut que j'aille vers les gens. Et là, c'est une interpellation pour toutes nos églises. Parce que ça veut dire sortir de nos temples, sortir de nos églises, pour aller vers ceux qui sont dehors. Et ce travail-là, il me semble qu'aujourd'hui, c'est primordial que nous fassions ensemble.
Pourquoi ?
Parce qu'on est, encore une fois, dans une société ultra-sécularisée, avec un supermarché du religieux où chacun le prend à sa carte. On prend ici, on prend là, il y a un vrai mélange. Et nous n'annonçons pas une doctrine. On annonce, c'est pas des éléments à croire qu'on donne.
Des techniques.
Ou des techniques. C'est faire rencontrer quelqu'un qui pour nous est une véritable présence dans notre vie et quelqu'un qui est aimant, qui a une présence agissante, bienveillante et aimante. Ça change tout ça. Alors ce quelqu'un-là, je peux en parler, mais tant que la personne ne l'a pas rencontré, elle ne pourra rien en dire. Et pour nous, notre rôle, c'est que nous soyons ces témoins au sens de partager ce que nous avons reçu. Et là, j'allais dire, il y a plein de manières de faire. Je vous donne un exemple. On a réussi à travailler ensemble sur la question écologique, mais sous l'angle... Alors, du côté protestant, on va parler de la justice climatique, économique et sociale. Du côté catholique, on parle d'écologie intégrale, mais on dit exactement la même chose. Les orthodoxes, eux, c'est un leitmotiv chez eux parce que c'est partie intégrante de leur liturgie. Et l'idée, c'est à la fois de comprendre que, et là on s'est entraidé dans nos approches théologiques, pour faire comprendre que déjà, l'homme n'est pas au-dessus. Il est partie intégrante. Et deuxièmement, on est interdépendant. Donc ce que nous faisons a une incidence pour les autres et réciproquement. On a réussi à le faire ensemble. Et du coup, quand on le fait ensemble, ça veut dire qu'on va toucher des personnes qu'on n'aurait jamais touchées par nos propres églises, parce que par nos réseaux, par ceci, par cela. Et cette question écologique, elle concerne tout le monde. Elle intéresse les contemporains et en particulier les jeunes. Et il y a eu un exemple où il y a eu un petit terrain qui a été acheté par une communauté, mais ça s'est fait avec plusieurs églises. Et ils ont commencé à cultiver, à travailler ensemble, juste pour témoigner, à une toute petite échelle. C'est des gens du quartier qui sont venus. C'est devenu une démarche interreligieuse, et même au-delà de ça, puisqu'il y a des gens qui n'appartiennent à aucune religion. Et ça, c'est très important, parce que c'est une manière de dire, c'est pas simplement des mots, c'est aussi une manière de vivre, c'est une manière d'être. Et ça se voit bien plus que nos mots.
On voit bien qu'il y a un intérêt croissant pour tout ce qui relève de la spiritualité dans notre société, malgré ou peut-être à cause de la sécularisation dont vous parliez. Qu'est-ce qui fait que l'Évangile, que le message dont les chrétiens sont porteurs, peut répondre à ce besoin de spiritualité, ce besoin d'intériorité de nos contemporains ?
Parce qu'on est dans un vide aussi de sens. On est dans une société qui est beaucoup sur l'immédiateté, qui est beaucoup sur des réseaux, mais qui ne sont pas des relations aussi qui durent et qui sont beaucoup de relations virtuelles. Alors, ce n'est pas dire que ça n'existe pas.
Et éphémère ?
Éphémère aussi, pas toujours. J'ai été très intéressée par le livre de Jérôme Fourquet qui s'appelle « L'archipel français » où il montre finalement que d'abord la matrice judéo-chrétienne elle a complètement implosé, on n'est plus dans cette société-là, ça veut dire que les repères pour les gens ne sont pas là. Hein. Donc là aussi, dans notre témoignage, c'est très important, pas faire comme s'ils avaient une culture chrétienne, c'est pas vrai. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'ils marchent par îlot d'affinité. Mais ça, c'est pas génial pour une ouverture. Ça veut dire qu'on va chercher le semblable. Et au bout d'un moment, on est en perte de sens quand on fait ça. Parce que ce qui nous constitue aussi, et ce qui va nous élargir, c'est l'altérité, c'est l'autre différent. Donc si on va toujours chercher le même, évidemment, on n'avance pas très vite. Et là où les églises ont un rôle à jouer, d'abord, c'est dans notre diversité. Elle est essentielle. Et voilà, là, c'est une richesse, cette diversité. Parce qu'on peut répondre justement aux contemporains par différentes approches. Justement à cause de cette diversité. Et la deuxième chose, c'est que nous avons aussi quelque chose à dire sur cette recherche de sens. La foi en Jésus-Christ, c'est donner un sens à sa vie. C'est, je vais le dire d'une autre façon, c'est comprendre qu'on peut être décentré de soi-même dans une société où on est totalement auto-centré, décentré de soi-même, parce qu'on n'a plus rien à prouver. On n'a pas besoin de justifier son existence. On n'est plus en quête de reconnaissance pour se faire un nom. On est libre. Et cette liberté-là, ben, elle nous permet de nous engager dans des tas de choses. C'est ça qui est formidable.
Bonjour ces entretiens, Anne-Laure Danet. On a commencé avec le mot œcuménisme. J'aimerais qu'on boucle la boucle. Vous pensez que le mouvement œcuménique, il est arrivé à maturité, que c'est pour ça qu'on en parle moins, ou bien que le débat ou les interrogations se sont déplacées vers les questions interreligieuses et islamo-chrétiennes?
Alors je crois que c'est vraiment les deux en même temps, c'est-à-dire le dialogue interreligieux ne se fait pas au détriment du mouvement œcuménique, parce que c'est pas la même chose. Par contre, ce mouvement œcuménique ne cesse de s'élargir. Il reste œcuménique, c'est-à-dire c'est un dialogue entre les églises chrétiennes, mais il y a aussi évidemment un dialogue qui se fait avec les autres religions et il est essentiel, essentiel. Et pas seulement l'islam, hein. Aussi avec le bouddhisme, aussi avec le judaïsme, qui n'est pas placé du coup de la même manière. Mais c'est très important, ça. Et là aussi, pour mieux se comprendre, pour trouver aussi comment on peut à la fois collaborer ensemble, mais pour collaborer ensemble, il faut apprendre à se connaître.
Et là encore.
Là encore. Et apprendre à se connaître, se soutenir. Se soutenir, c'est-à-dire, on voit bien que dans la société française, la place des religions dans notre laïcité à la française n'est pas si évidente que ça. Et là, il s'agit aussi de se soutenir, non pas de faire un front des religions, ce serait ridicule, mais par contre de nous entraider. Entendre ce qui se passe en Israël et à Gaza, il faut entendre la souffrance des deux côtés. Il ne s'agit pas de rapatrier le sujet en France, ce serait ridicule, mais d'entendre ce que vivent les communautés juives en France, mais aussi les communautés musulmanes. Et là, il s'agit aussi d'être cette présence bienveillante. Et ce n'est pas une histoire de bisounours, là, hein, pas du tout. C'est très exigeant, parce qu'il s'agit à la fois de, d'être dans cette... dans ce rôle de témoin qui... moi je dis toujours la même chose, à savoir cette présence, mais où on apprend à connaître l'autre. Et être ensemble aussi, c'est pas évident, hein. Quand il y a des tensions comme ça, c'est pas du tout évident. Et pour les communautés, c'est des lieux de souffrance, ça il faut le savoir, hein. Donc c'est important aussi, on revient sur un terme qu'on a déjà utilisé, d'être dans cette démarche aussi de compassion, mais une compassion active.
Est-ce que ça suppose là encore un risque ?
Dès qu'on bouge, de toute façon, on est critiqué, mais ça, c'est pas le problème, et ça doit même pas être le sujet. C'est d'être cette présence sans rapatrier, encore une fois, la problématique en France, c'est pas la même chose, mais par contre, oui, les communautés juives souffrent aujourd'hui, il y a elles le disent d'ailleurs, hein, beaucoup de gens vivent dans la peur, c'est quand même pas normal ça, hein. Et puis, y compris les communautés musulmanes, il faut aussi les entendre. Et se mettre ensemble pour pouvoir dire, dénoncer dès qu'il y a une forme d'injustice, d'oppression, etc., etc. Le dénoncer. Et là encore, plus on est ensemble, plus on est fort. Mais là où je me réjouis, c'est qu'en France, ça se fait très largement, ça. Il y a une très belle entente entre les responsables des cultes en France, et ils œuvrent ensemble pour justement à la fois se soutenir, mais aussi dénoncer toutes ces formes d'injustice.
Un très grand merci à Anne-Laure Danet de nous avoir accompagnés dans ces entretiens.
Merci beaucoup à vous.